C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais... Toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
Entre Loire-Atlantique, Morbihan et Ille-et-Vilaine se niche la charmante ville de Redon, où parfois résonnent les mensonges et autres contes à dormir debout de la fameuse Bogue d'Or. Bonjour, c'est Charles Cécile, et non, ce n'est pas le début du jeu des 1000 euros, mais une nouvelle enquête au pays des conteurs. Voilà, aujourd'hui nous suivons Anne-Gaëlle Gauduchot à Redon, et c'est ici, dans une petite maison avec vue sur la rivière, que notre émission démarre. Trafiquante de contes, tout autant que marchande d'étoiles, c'est Gigi Bigot, que vous rencontrez aujourd'hui. Figure incontournable du paysage du conte français, elle a longtemps tourné ses spectacles dans toute la France ainsi qu'à l'étranger. À l'âge de la retraite, Gigi a posé ses valises afin d'entreprendre une recherche universitaire dans laquelle elle revendique la nécessité du langage symbolique inhérent à toutes les cultures, à savoir... la langue maternelle des contes et des rêves.
I still have a dream.
C'est d'ailleurs dans une loge de rêve que la conteuse Anne-Gaëlle Gauduchot l'a rencontrée. Elles se sont plues et ont eu envie de faire davantage connaissance. C'est ainsi que Gigi a accepté d'être la marraine de l'édition 2024 du festival Héroïne de sept lieux. Vous êtes prêts au décollage? Allez, c'est parti!
Gigi Bigot, bonjour!
Bonjour, Anne-Gaëlle Gauduchot!
Ça va bien?
Ça va pas mal.
Donc on est chez toi, là, au bord de la Vilaine.
Ouais. Redon, on dit, parce que j'adore Redon, c'est pour ça que je me permets, comment on appelle ça, tu sais, comme des phrases sur une ville, c'est Redon, petite ville, grand renom. C'est pas mal quand même, on n'est même pas 10 000 habitants.
Donc tu es conteuse?
Je suis conteuse.
Depuis tout le temps?
Non, j'ai été 20 ans... dans l'éducation, un petit peu éducatrice, mais surtout avec, même, oui, quasiment que avec un public d'enfants, comme on disait, à problème, et c'est bête de dire ça, mais j'ai travaillé avec des enfants autistes et psychotiques, ah oui. Avec des enfants de travailleurs étrangers. Voilà, c'était avec des enfants blyopes. C'était des gamins qui ne voyaient pas bien, mais très grave, quoi, tu vois, presque aveugles. Donc j'ai toujours le côté éducation. Le plus normal que j'ai eu, c'est, on appelait ça les CES,
oui,
à l'époque.
Tout ça à Rennes?
Oh non, je suis allée dans le Nord. J'ai quitté l'éducation... catholique, que j'ai eu jusqu'à 18 ans. Et puis, je suis partie dans le Nord en 72. Et ça a été comme une deuxième naissance parce que je suis tombée dans... J'ai rencontré un autre milieu, donc pas catho, Moi, je ne l'étais plus, mais quand même, j'avais toute cette éducation que je ne renie pas du tout. Mais je suis, comme François Ruffin, une chrétienne athée. Et arrivée dans le Nord, ben, j'étais plus du tout dans le monde catho. C'était très ouvrier. Et puis, il y avait beaucoup d'étrangers, et surtout des Maghrébins, des Polonais.
Quand tu dis dans le Nord, c'était où? C'était du côté de
Lille. À Lille.
Oui, c'est ça, Lille.
Lille, ouais. Roubaix. Et j'ai été 5 ans dans le Nord. J'ai adoré. Adoré. Et c'est bien plus tard que je suis devenue conteuse.
C'est pas pour dire, en compagnie de la conteuse Gigi Bigot.
Avant de faire la famille des humains, le Créateur s'était fait la main sur la famille univers. C'est lui qui a marié le ciel avec la terre. Ils ont eu 2 enfants, la lune, le soleil. Les enfants ont grandi et puis... ils sont partis, c'est ça la vie. La vie, le soleil l'a trouvée si belle, il s'est marié avec elle. La lune, elle regardait passer le temps, elle s'est mariée avec lui tranquillement. À leur tour, ils ont eu des enfants, des éclairs et des jours, des étoiles et des nuits. Quelquefois, un éclair en colère détruit ce que vient de faire son père. Des fois, la terre attend ses petites filles, les étoiles, et ce soir, elles viennent pas. C'est ça la vie. Et depuis, dans le monde, eh ben, c'est pareil. Il y a des filles, et puis il y a des pères, il y a des garçons, il y a des mères. Il y a des petites filles assises sur les épaules de leur père. Quand elles lèvent le bras, elles touchent le ciel avec les doigts. Les filles font la roue dans la rue. Les filles, elles dessinent des marelles. Elles s'envolent de la terre au ciel et du paradis en enfer. Les filles, elles tracent le monde par terre. Là, il y aurait la cabane. Pas bien loin, la pentie. Dans le fond, il y aurait les collines. Et puis la rivière, elle coulerait jusqu'au débarcadère. Il y a quelqu'un au débarcadère. C'est une jeune femme. Elle attend son père. Son père est au fond de la rivière, adossé contre un rocher, les yeux grands ouverts, les cheveux dressés en l'air. À son tour de m'attendre, qui se dit le père, je l'ai assez attendu, moi. Et pour ne pas remonter, le père, il s'est coincé le pied sous le rocher. La jeune fille est assise, elle regarde l'eau couler, elle essaye d'apercevoir les pierres au travers. Ça lui rappelle une devinette. Quand elle était petite, à la fête de l'école, l'instituteur avait demandé aux enfants « Est-ce que vous savez comment sont les pierres au fond de la rivière ?» Les parents étaient là, tous les enfants se creusaient la tête. « Comment sont les pierres ?» Elle, elle s'était retournée. Elle avait croisé le regard de son père. Aussitôt, elle avait deviné. Ben, mouillées, elles sont mouillées, les pierres, au fond de la rivière. Il lui avait suffi de regarder son père.
Gigi Bigot raconte Jean des Merveilles, issu du roman de Selma Lagerlöf, L'Empereur du Portugal. C'est pas pour dire, en compagnie de Gigi Bigot et de Angel Goluchot.
Comment c'est venu ça? Comment c'est arrivé?
Bah, tu veux, comme la Pentecôte, c'est comme la Pentecôte, c'était la Pentecôte.
Ça m'est tombé dessus?
La Pentecôte, ça m'est tombé sur la tête. Non, c'est parce que...
Une lampe de feu de conte.
C'est parce que je travaillais à Guénouvry, à côté de Guémené-Pinfaux, en psychothérapie institutionnelle, à une boîte fondée au départ par Maud Manoni et les Guérin, le couple, qui ensuite a quitté Bonneuil, est venu s'installer dans un petit village à côté de Guémené-Pinfaux. Et comme l'équipe savait, donc moi j'étais instite, payée par les parents au départ, et puis ensuite nommée par l'éducation nationale.
Mais alors comment de la psychothérapie institutionnelle, c'est à quel endroit que ça s'est croisé avec le conte?
Parce que du temps de Bonneuil, il y avait un atelier conte. Ah. Et je crois d'ailleurs que Catherine Zarkat est allée conter là-bas. Et après, arrivée à Guénouvry, ils ont à un moment donné laissé tomber l'atelier conte par manque de... Tu vois, il n'y avait personne dans l'équipe
qui se
sentait capable de reprendre. Et moi, à l'époque, bah, tu vois, c'était les années 80, ouais. Et il y avait les radios libres.
Ouais.
Et moi, je faisais une émission à Redon qui s'appelait « Dis-moi quelque chose ». Une émission pour enfants où je lisais, je n'étais pas conteuse, je lisais les contes de pommes d'api, tout ça.
Ah ouais.
Et puis comme ils m'ont demandé si je voulais bien faire un atelier conte, et ben du coup...
Tout d'un coup, tu t'es retrouvée à même de...
Je suis allée faire un stage au Clio, ouais. Et on était trois à raconter un conte chaque semaine à l'atelier conte. Et j'ai tellement, tellement aimé conter. Je ne savais pas, j'avais fait un petit peu de théâtre et tout ça.
Il y avait qui à ce moment-là au Clio?
Il y avait Bruno de la Salle et Olivier Poubelle.
Ah oui, c'est vrai.
Travaillaient au Clio.
C'est vrai. Ah oui.
Et moi, je revois ces jumelles qui avaient 10 ans peut-être.
Ah oui.
Tu vois, et donc, ça a été le premier et le seul stage que j'ai fait. Mais ça m'a... ouvert une porte, tu vois, et puis c'était en 85.
Et là, tu as commencé à...
Bah oui, parce que du coup, je raconte à Guénouvry, mais j'ai raconté à la bibliothèque de Renon, tu vois, à l'école de ma fille, elle avait 6-7 ans.
Mais voilà. Là, on est dans l'époque qu'on appelle celle du renouveau.
Les néo-conteurs.
Voilà, ouais. Il n'y avait pas grand monde qui racontait, comment... Tu as envisagé tout de suite que ça pouvait devenir un métier?
Pas du tout.
Ouais.
Ça m'allait très bien de raconter aux mêmes enfants un conte différent chaque semaine, que ce soit à l'école de Hanouk, à la bibliothèque ou à Guénouvry. Mmh. Mais c'est aussi cette année-là que j'ai rencontré Pépito à Chevilly-la-Rue. Et comme tu dis, c'était le début des néo-conteurs. Pépito était plutôt...
Il racontait, déjà.
Il était plutôt comédien, mais il était très intéressé par le solo. Mmh. Tu vois, écrire et puis dire. Mmh. Et par contre, il ne connaissait rien aux contes traditionnels à l'époque, tu vois. Et donc moi, c'était en 86, et je ne suis devenue vraiment conteuse qu'en 92.
C'est comme un ouvrage à détricoter. Il faut trouver le fil qui va le dévider. Le fil qui va du père à la fille et de la fille au père. Et puis à la mère aussi. Quelquefois, l'histoire est en jacquard, les trois fils mélangés, torsadés, bien serrés. Et puis des fois, c'est tellement lâche, prêt à casser. Pour bien vous la tricoter, il suffit que moi, je tire sur le fil d'une journée. Par exemple, ce jour-là, ce jour où pour la première fois de sa vie, Jean n'est pas allé travailler. Il est dehors depuis des heures. Il s'abrite du mieux qu'il peut sous le petit appentis. Il est assis sur un billot. La tête entre les mains, Et il pense à sa vie en se disant que vraiment, sa vie, ce n'est pas une vie, qu'il n'a pas mérité ça et que ce n'est pas pour ça qu'il s'est marié. Parce que lui, Jean, s'il s'est marié avec Anna, c'est pour avoir un chez-soi. Avant, ils étaient logés tous les deux chez le fermier qui les embauchait, le fermier du domaine. Jean, comme journalier. Ben, journalier, ça veut dire tous les jours sont pareils pour tout le temps. Anna, comme bonne à tout faire, ben, elle fait tout ce qu'il y a à faire. Mais le jour où ils se sont mariés, le fermier leur a donné un bout de terrain et ils ont construit la cabane dessus. C'est pas compliqué, ça. C'est pour ça qu'il s'est marié. Sauf qu'aujourd'hui, dans la cabane à côté, il y a deux bonnes femmes à s'activer autour d'Anna. Il paraît que des fois, ça peut durer des heures. Il va quand même pas passer la nuit ici. Hein. Déjà ce matin, c'est lui qui a couru chercher la sage-femme. Le jour n'était pas encore levé. Et depuis, ben, il est là, à grelotter, à s'abriter de la pluie, à regarder sa vie aussi grise que les gouttes. Qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour mériter ça? Tout à coup, dans la cabane à côté, le bébé se met à crier. Et puis encore une fois, et puis une autre, comme pour dire qu'il est bien là. Alors Jean se dit que maintenant qu'il sait que ça s'est bien passé, eh bien lui, il peut s'en aller. Il n'avait rien voulu. Tout ça, c'est pas pour ça qu'il s'est marié. Il était complètement gelé. Ça lui ferait du bien de marcher. Jean se voit au débarcadère. Il prendrait le premier bateau. C'est ça qui serait bien. S'en aller, ça leur montrerait de quoi il est capable. Alors, Jean se lève. Il donne un coup de pied dans la sûre et sort sous la pluie. Ça y est, il est parti. Jean, juste à ce moment-là, pas avant, pas après, pile à ce moment-là, la porte de la cabane s'est ouverte. Et la fermière du domaine lui a fait signe de venir avec un sourire en plus. Départ complètement raté. Jean fait demi-tour. Il rentre dans la cabane. Anna est dans son lit. Elle le regarde doucement. La sage-femme s'approche, lui met le bébé entre les bras. Regardez, Jean. Regardez comme elle est belle, votre fille.
Encore un extrait de Jean des Merveilles. Raconter un roman n'est pas une chose facile et Gigi Bigou y apporte toujours sa touche personnelle. L'amour d'un père envers sa fille partie à la ville efface toute tristesse pour se muer en rêve puis en folie. C'est pas pour dire, Gigi Bigou au micro de Angel Goduchon.
À quel moment t'as envisagé que c'était une discipline artistique?
Ben souvent quand on me demandait, tu vois les, quand après t'as les interviews, comme aujourd'hui, c'est, je dis toujours que je suis devenue conteuse par gourmandise, parce que jamais, étant donné mon milieu, jamais je n'aurais pu penser un jour devenir artiste. Mais comme Pépito comptait que c'était le début des festivals. Mmh. Je me suis retrouvée à assister à des festivals. Puis du coup, j'ai raconté un petit peu. Et en 90, j'ai demandé un mi-temps pour voir si ça allait. Mmh. Et en 92, j'ai laissé tomber le côté instit. Mais qu'est-ce que j'ai aimé faire des ateliers scolaires en tant que conteuse. Mmh.
La gourmandise.
Ah, c'est vraiment, tu vois, vraiment par gourmandise, parce que je me suis rendu compte à quel point j'aimais compter. Mmh. En toute simplicité à l'époque, hein, tu vois, t'as un petit auditoire. Je me suis réalisée, mais j'aimais beaucoup être instit, avec des enfants, tu vois, un petit peu particuliers, mais j'ai adoré compter.
Il y a une chose que tu aimes bien faire depuis un moment qui s'appelle manger pour cœur. C'est la gourmandise qui me fait bifurquer.
C'est pas mal comme lien. Et je suis pas une fille très gourmande en plus. Donc j'ai commencé en 90 à mi-temps et en 92 total. Mmh. Et plus j'avançais en compte, tu vois, en expérience, en écriture de spectacle, plus je m'interrogeais sur l'irrationnel, l'imaginaire, la parole symbolique.
L'invisible.
Je me disais, mais comment ça se fait que des gens qui sont rationnels, tu vois, qui étaient dans le public, acceptent de décoller. Tu vois, ils ont plein de soucis, ils ont plein d'occupations, et tu les as devant toi à partir du moment où tu leur donnes des images, ils font leur petit cinéma dans leur tête,
et ils
décollent et ils ne s'en rendent même pas compte. Et donc, j'ai eu envie, pour moi-même, où j'en étais de mon boulot, eh ben, de creuser la question, qu'est-ce que c'est que cette parole qui m'anime et qui, je vois, répond à quelque chose chez le public.
Là, c'est récent, ce désir de faire ce travail-là.
Ben, ça fait quand même... C'était au moment où j'allais arriver à la retraite, donc à 60 ans, ouais. Parce qu'à l'époque, c'était 60 ans. Ah. Donc, je suis allée à la fac pour la première fois de ma vie à 60 ans.
Génial.
Et j'ai fait un Master 1 et un Master 2.
Deux.
Alors, c'était en sciences de l'éducation. Mmh. Et c'était... le premier, c'était les contes et les rêves. Mmh. Tu vois, tellement c'est la même matière. Génial. Et probablement... C'est Jung qui dit ça, et puis son traducteur, Étienne Perrault. Et Gézaroem aussi dit ça, un ethnologue, un anthropologue, qui s'intéresse à la psychanalyse. Et eux, ils disent que les contes sont nés des récits de rêves. Et pour moi, c'est...
assez évident.
Voilà. Moi aussi, c'est pareil. Tu vois.
Tout le wati watia, tout le wati watia. Oh, qu'il est où la camp?
Donc, premier, c'était les contes et les rêves.
Deuxième. Ouais, et le deuxième, c'était, je ne sais plus le titre exact, mais c'était sur la parole symbolique. Quoi. Où est-ce qu'elle apparaît dans la vie de tous les jours et sans qu'on s'en rende compte? On l'utilise quand tu dis par exemple je te donne mon cœur, ou mon cœur s'est brisé quand j'ai entendu ça, ou je suis mal dans ma peau, je voudrais changer de peau moi, etc. Et en fait, cette parole là encore plus dans les contes, mais cette parole là elle n'est pas là pour faire beau, elle n'est pas là pour faire artistique, poétique, elle est là comme complémentarité de la parole rationnelle. Et donc, c'est ce que j'ai creusé pendant ma recherche.
Tu dirais ça, là, elle vient d'écrire des choses qu'on ne peut pas dire autrement.
Voilà,
comme ça.
On ne peut absolument pas dire la même chose. J'ai un tout petit exemple d'une dame d'ATD Carmonde. Je le dis dans le Manger pour cœur. Tu vois, elle rencontre donc grande précarité, tu comptes pour du beurre, tu n'es jamais sollicité, et deux personnes d'ATD Carmonde la rencontrent. Et à la fin de l'entretien, elle leur dit « Vous m'avez demandé mon avis, c'est comme si on m'avait donné le ciel. » Tu vois, elle aurait pu dire je suis reconnaissante, ben là je vois que je vaux le coup, c'était passé. Et elle ne s'est pas dit « Oh, je vais faire de la parole symbolique. » Elle n'avait pas les mots rationnels parce que ce qu'elle avait vécu était plus fort. Et donc, c'est ça qui m'a beauté et le manger pour cœur, ben c'est l'oralité de ma recherche. Je me souviens que déjà, à l'école primaire, j'adorais que la maîtresse me demande de lire à voix haute. Je me souviens de mon traumatisme, quand mon frère m'a annoncé sans aucun ménagement que le Père Noël n'existait pas. Prise de panique, je me suis rabattue sur Jésus qui marche sur l'eau sans que son père dégonfle sa bouée. La multiplication des petits pains au chocolat. Tout ce que j'apprenais à l'école Sainte-Bernadette chez les sœurs adoratrices de la justice de Dieu. Je le racontais ensuite à ma petite sœur qui n'allait pas encore à l'école. Et je devais pas mal me défendre puisque j'ai réussi à la convaincre de donner son nounours au cours d'une collecte de jouets à destination de l'Afrique. Hélas, quelques années plus tard, au cours d'un déménagement pour l'île Roubaix-Tourcoing, je n'ai pas perdu le nord, mais la foi. Or, entre-temps, le Père Noël n'avait pas ressuscité. Vous comprenez que je n'avais plus qu'une solution, faute de devenir Dieu, qui donc n'existait pas. Créer mon univers, bref, devenir conteuse. Je me souviens que j'ai mis beaucoup de temps pour oser dire « je suis conteuse » et encore plus pour dire « je suis artiste ». Je me souviens que j'ai eu peur aussi des fois souvent. Je me souviens que des fois, j'ai eu si peur que ma peur a envahi tout l'espace et que j'ai bien fêché mon petit monde. Je me souviens de l'article de Philippe Maté dans Ouest France du 15 janvier 2011, annonçant mon départ de la scène. Lire page 9, Gigi Bigot tourne la page de 25 ans de compte. Le même jour, sur la même page, on pouvait lire. Lire page 3, Jean-Paul II sera béatifié le 1er mai. Lire page 4, Le Pen quitte la scène politique. Toi, je suis Farachine.
Les laisser pour compte. Conteuse engagée, Gigi utilise son art pour transmettre des valeurs de tolérance, de respect, de solidarité. Elle est active depuis 20 ans à ATD Carmonde, qui veut dire agir tous pour la dignité. Ici, des militants, eux-mêmes personnes en situation de précarité, et des alliés qui s'engagent à leur côté, créent des comptes dans l'objectif de dénoncer autrement les injustices sociales. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas pour dire.
Ça, dans quel cadre tu fais ça, où en fait, manger pour cœur? Pour qui?
Alors c'est quand même très souvent des gens du milieu du conte. Tu vois, je le fais très souvent dans les festivals. Et puis quand même dans les bibliothèques, beaucoup dans les festivals, pour des groupes de conteurs amateurs, tu vois, énormément dans ce milieu. Et j'ai essayé de faire quelque chose que j'ai appelé, qui existe encore, conte et décontamination. pour mélanger le public universitaire au public des amateurs de contes, en fait, je le faisais, j'ai dû en faire une quinzaine de rencontres à Paris, tu vois. Et en fait, les gens de la fac, ceux qui étaient proches de moi, sont venus par amitié, mais ça ne les a pas du tout ouverts.
Ah bon ?
Oh, c'est étonnant, toi.
Ah ouais.
Ouais.
Ah
c'est ouais. Incroyable.
Tu appelais ça conte et décontamination parce qu'il s'agissait de décontaminer quoi ?
Ben, c'était pour montrer, tu vois, ce que je voulais montrer, c'est que le conte, c'est profondément humain. Tu vois, ce n'est pas cliché. Or, encore aujourd'hui, avec le nombre de festivals de contes qu'on a en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, eh bien, tu dis conte. Ah oui, pour les enfants. Tu dis conte. Ah oui, une petite animation. Tu dis conte. Ah ben oui, dans les EHPAD. Ah oui. Les EHPAD, les prisons. Que le milieu spécifique. Qui, c'est intéressant parce que c'est très humain, mais il n'y a pas une personne qui n'est pas spécifique ni fragile.
Oui, bien sûr.
Et le conte, il sait ça, c'est ça qui me fascine dans le conte, c'est qu'il a un rapport à la vulnérabilité dont on parlait tout à l'heure. Oui. Il y a tous les sentiments qui nous traversent, le désir, la jalousie, la peur, tous les sentiments, tu dirais un sentiment, tu vas dire, ah ben tiens, il y a le conte là.
La conteuse chercheuse Gigi Bigot nous parle de son travail, du besoin d'imaginaire inhérent à l'être humain et de la force de la parole symbolique. C'est pas pour dire, Anne Galgaud-Duchaud et Gigi Bigot.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des gens qui ont envie de raconter des histoires et d'autres qui ont envie de s'asseoir et de les écouter ? D'où ça sort ce truc ?
Ben, il n'y en a pas tant que ça. Hein.
C'est vrai.
Et non, et tu sais pourquoi je te dis ça ? Parce que, tu vois, là, tu dis « je suis conteuse ». Il y a un moment de recul et d'interrogation. Et il y a un seul journal régional en France qui met le conte à côté, dans, tu vois, la rubrique « sortie ». Il y a un seul journal, c'est chez Mapi Caburet. Que tu connais, en Franche-Comté, eh bien, tu ouvres leur journal, d'ailleurs, je dois l'avoir quelque part en photo, et c'est marqué cinéma, théâtre, danse, conte. Un seul journal régional en France a mis le conte au niveau de tous les autres arts. Tu vois ? Donc, moi, je me pose la question dans le sens inverse parce que je vois bien que quand on fait un spectacle de conte, c'est magnifique l'échange, le partage, la simplicité de rapport, même si je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu trop de technique chez les jeunes conteurs. Mais je me dis que chaque génération invente sa défriche.
Oui, à sa j'ai façon. L'impression quand même que ce qui se passe après la raconter, quelle qu'elle soit, dans le rapport entre les gens qui ont écouté et la personne qui a raconté, il y a quand même quelque chose de plus simple, il me semble.
Je crois que tu as raison parce que c'est aussi le fait que le conteur ne joue pas. Bien sûr, il travaille son langage, il travaille sa façon d'être. Tu n'es pas à l'apéro avec un pote quand tu es sur scène. Mais il n'empêche que tu es toi-même. Alors que le meilleur comédien du monde tout d'un coup, je pense à Laurent Terzieff, eh bien, il était comédien. Donc, quand Laurent Terzieff descend de scène, enfin descendait, il est lui, avec sa timidité, avec... alors que le conteur, il reste lui-même.
Oui, c'est ça.
Donc,
oui.
Je pense que tu as raison sur la proximité et le partage.
Tu m'as dit tout à l'heure que dans des travaux avec les gens de ATD Carmonde, vous avez inventé des histoires aussi.
Oui, incroyable.
Ouais. En disant, bon, alors, dans cette situation, qu'est-ce qui pourrait y avoir? D'abord, ça se passe où? C'est comment? Si on doit parler de, qu'est-ce que tu disais, misère et violence, par exemple, il faut quoi comme élément? Il faut quoi comme personnage? Et alors, comment ils sont et tout ça? Ça marchait bien? Les gens étaient d'accord pour faire ça?
Ça m'a sidéré. Alors, il faut quand même... Ça m'a sidéré qu'ils aient cette capacité à rentrer dans le jeu, tu vois. Et puis, avec obligation de passer par l'irrationnel. Dans la famille, pas comme nous, je voudrais... Le père.
Le père? Il est au bord de la rivière. Il ajuste ses vêtements fatigués, passe un peigne dans ses cheveux et attrape deux de ses enfants par la main. Allez, en route!
Dans la famille, pas comme nous, je voudrais... La mère.
La mère, elle débarbouille comme elle peut les plus petits pour qu'ils arrivent propres dans le bourg.
Dans la famille, pas comme nous, je voudrais... Le grand frère.
Le grand frère, il ferme la marche. Il porte un violon sur son dos.
On est mercredi.
Au fur et à mesure que la famille pas comme nous fait son entrée dans le village, portes et fenêtres se ferment. Les mères appellent leurs enfants.
Ah oui, bien sûr, c'est l'heure du goûter.
Bizarre, derrière les carreaux, les rideaux bougent. Derrière les rideaux, on distingue des silhouettes.
Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous?
La famille, pas comme nous, avance sur le trottoir. Par endroits, des touffes d'herbe ont crevassé le goudron. Dans la rue principale, des maisons ont leurs fenêtres murées. Sur le mur de l'école, une banderole.
Non à la fermeture.
Sur la vitrine de l'épicerie Bar Tabac, une pancarte.
À vendre.
Les pas comme nous montent les marches de la mairie. Le père, entouré de toute sa famille, frappe au bureau de la secrétaire.
Toc, 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 il n'y aurait pas de la place pour nous, c'est pour dormir.
Vous croyez que vous êtes les seuls? Les gens de chez nous sont prioritaires. Désolé.
Au même instant, quelque part sur la terre, une femme et ses enfants sortent de leur maison qui s'écroule sous les bombes.
Alors, devant la mairie, les fleurs du parterre se fanent.
Les pas comme nous traversent la place et entrent dans l'école. Ils frappent au bureau du directeur.
Toc, 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 il n'y aurait pas de la place pour nous, c'est pour qu'ils apprennent.
Mais vos enfants ne parlent pas le français. Ils vont faire baisser le niveau. Désolé.
Au même instant, quelque part sur la terre, un taliban arrache le cartable d'une écolière. Les filles n'ont pas besoin de savoir lire.
Alors, dans la cour de récré, les oiseaux s'arrêtent de chanter.
Les pas comme nous continuent leur chemin.
Un extrait des ateliers Quartier de la Lune avec des conteurs amateurs au sein d'ATD Carmonde. Gigi Bigot, je cite, « À côté des plus fragiles qui ont autant à dire que les puissants, je suis devenue une militante du droit au rêve. »
Manger pour cœur, c'est une expression...
Ça vient, j'adore.
C'est beau, hein?
Ça vient de l'île de la Réunion. Et c'était comme ça qu'ils appelaient le conte traditionnel, le manger pour cœur. Une émission religieuse a pris ce nom, le manger pour cœur, un chanteur très connu qui est décédé maintenant a fait une chanson qu'il a appelée le Manger pour cœur. Et en Colombie, ils disent la faim de l'âme, l'âme qui a faim.
Pour dire le conte.
Oui, mais c'est des gens qui m'ont dit ça à la sortie d'un...
Toi, tu as conçu ça comme un parcours où concrètement, aussi, on mange. On mange.
Oui, ah ben oui. Alors, je vais dire, c'est tout simple.
Ouais, ouais.
Parce que, en fait, c'est grâce à Dominique Declercq dans le Nord qui m'avait invité à faire un stage. J'adore faire les stages. Maintenant, je fatigue plus, mais je trouve que c'est des sacrées belles rencontres. Et je lui dis, mais écoute, si je viens dans le Nord, je voudrais bien faire ma petite conférence. Il me dit, conférence, ça va attirer personne. Le mot conférence, je lui dis, attends. Ou alors, il voulait que je fasse seulement un spectacle de conte en même temps que le stage, tu vois. Et je lui dis, mais moi, ça ne m'intéresse plus de faire que des histoires. Je voudrais faire ma conférence. Il me dit, mais oui, mais ça va pas, une conférence. Et c'est là que je lui ai proposé 1h30 de conférence tourneboulée pour enlever le côté intello, tu vois.
Il y a des conférences gesticulées et il y a des conférences tourneboulées.
Ouais, et ben c'est grâce à gesticuler que j'ai eu l'idée de tourneboulée pour que ça fasse pas intello.
Oui.
Après, on a un petit apérodinatoire.
C'est ça.
De maximum 45 minutes.
C'est ça.
Et puis après, je raconte pendant 1 heure, et là, c'est vraiment de la gourmandise. Tu vois, parce que mon enjeu, c'est partager le manger pour cœur. Et après, les histoires, ben, c'est chouette, ça fait comme un reflet de la conférence, tu vois, parce que je suis quand même conteuse. Quoi.
Oui, et puis là, concrètement, on partage un moment tout à fait normal, où on mange aussi ensemble.
Puis tu as parlé du conte sans compter... Il y a quelque chose qui va pas, quoi. C'est comme parler de nourriture sans goûter.
Dans le quartier, tout le monde l'appelle la brodeuse. Normal. Au moindre rayon de soleil, elle s'installe sur son balcon au premier étage, elle sort son ouvrage et elle brode.
Tout autour, c'est des tours. Aujourd'hui, elle s'est installée encore plus tôt que d'habitude. C'est parce que cette nuit, elle a fait un rêve. Elle a rêvé d'une maison, une belle maison dans un jardin. Au milieu, un arbre et des oiseaux. Et avec ça, un soleil. Elle ne veut pas perdre son rêve. Il est tellement beau qu'elle veut le broder. Alors, elle s'installe sur son balcon. Une chaise, sa boîte à couture, son coton, ses fils, ses ciseaux, et c'est reparti comme en 40.
À midi, elle s'en va faire quelques courses au supermarché. Devant la porte se tient un adolescent roumain. Il a quoi, 15 ans à tout casser. Il est assis sur une couverture, il fait la manche. Elle le connaît bien depuis le temps. Elle lui donne une petite pièce. Ils échangent quelques mots. Il parle de mieux en mieux le français. Aujourd'hui, il est tout content. Il a dans les mains la photo d'un footballeur. Bon, c'est pas le tout, sa broderie l'attend.
De son balcon, la brodeuse voit tout. Elle a repéré une gamine. Elle ne se mêle pas aux autres à la récré. Quand ils attaquent leur casse-croûte, elle sort le sien, mais n'en mange qu'un petit bout. Le reste, elle le range dans sa poche. Dring ! Sortie de l'école. Les enfants se ruent dehors comme des lions.
Elle, personne ne l'attend. Par contre, un chat de gouttière déboule à peine la sonnerie déclenchée, et puis une espèce de chien pelé, un chien sans collier, c'est sûr. La gamine regarde autour d'elle, et hop, elle se faufile entre le grillage de l'école et un buisson. Le chat et le chien la suivent. La gamine sort son goûter de sa poche et le partage entre ses amis. La brodeuse l'a surnommée Sauvagine. C'est un peu elle quand elle avait son âge.
N'empêche que sa broderie a drôlement bien avancé. Elle fait chauffer sa soupe, allume la télé. Ah, journal télévisé. La guerre comme toujours. Un couple de vieux, ils courent en se tenant par le bras. Devant eux, des soldats avec leurs mitraillettes. Autour d'eux, des gens paniqués qui fuient. Ils se tiennent si serrés que son cœur à elle se serre aussi.
Tous les jours, la brodeuse se remet à sa broderie. Les couleurs se mêlent à ses larmes quand elle est indignée, révoltée, touchée, tout simplement.
Ce matin, quand elle a ouvert sa porte-fenêtre, elle a vu en bas une espèce de toile cirée qui recouvrait quelque chose. On n'était pas là hier soir. Voilà que la toile cirée se met à bouger.
Un fantôme ?
Non, c'est un homme qui en sort, complètement courbaturé. Il replie la toile cirée et la range dans un caddie de supermarché au milieu de sacs plastiques de toutes sortes. Il parle tout seul.
Voilà que trois jeunes avec des casquettes de rappeur se dirigent vers lui. Ils vont lui faire des ennuis, c'est sûr. L'homme au caddie prend peur et commence à s'éloigner. Mais les jeunes lui barrent le passage. Ils fouillent dans leurs poches.
Ils vont sortir un couteau ?
Non, ils brandissent un kebab et en plus quelques pièces de monnaie. Ils les offrent à l'homme errant. Puis, ils s'éloignent en rigolant. Sur le visage de l'homme se dessine un sourire chaud comme un soleil. Ça, c'est une journée qui démarre bien.
Quand elle reprend sa broderie, elle a encore plus envie d'y mettre tout son cœur. Ça y est, en fin d'après-midi, sa broderie lui semble terminée. Tout est fait. Elle tend la broderie sur son balcon, elle admire son travail.
Pourtant, elle a l'impression qu'il manque quelque chose. Mais quoi ?
Mettre en valeur le savoir des gens qui ne sont jamais consultés mais toujours contrôlés. Ici, toujours à l'écoute de ses pas pour dire, on entend les conteurs amateurs des ateliers ATD Carmonde.
Comment est-ce que cette parole du conte, c'est ce que je fais dans le manger pour cœur, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Comment est-ce que cette parole du conte fait briller la parole du témoin, la parole du médecin, la parole et comment le témoignage, l'historien, le journaliste fait briller les contes inventés par des gens ou des contes traditionnels. Et je trouve que toutes ces paroles, elles se renforcent mutuellement.
Du dialogue entre la parole symbolique.
Voilà. Juxtaposées. Elles se juxtaposent, mais elles se renforcent. Parce qu'on traite de la même chose. Et à chaque fois, il y a une espèce d'émotion. Quand tu vois un baptême républicain avec des enfants d'une famille d'Azerbaïdjan, là, dans la commune à côté, ben, tu as l'association, tu as le maire, tu as les gens, ils vont dire un petit mot s'ils parlent un peu français. Hop, le conte. Les gens, ils ont les larmes aux yeux parce que cette parole, c'est ce que je te disais tout à l'heure, cette parole, elle est à tout le monde. Tout le monde a sa place. Le témoin, c'est pas le psychologue. Ils ont chacun leur parole. Et c'est super qu'ils croisent leurs paroles. Mais le conte, c'est la parole de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être témoin, il n'y a pas besoin. C'est extraordinaire. C'est le croisement des savoirs, c'est pas le partage des savoirs, l'expression que je t'ai donnée. C'est le croisement des savoirs. Ouais.
Tu m'as dit, il y a une chose qui m'anime, qui me fait vibrer. En ce moment, c'est la question de la vulnérabilité. Est-ce que tu dirais qu'il y a un rapport entre toutes ces choses qui t'animent là, entre raconter des histoires, militer, réfléchir sur cette question du vulnérable, de la vulnérabilité ?
Mais c'est marrant parce que quand tu me parles effectivement, ATD Carmonde, Oui, là, c'est une vulnérabilité des gens, mais qui a à voir avec le sociétal. Oui. Mais mon public, tu vois, quand j'étais instite, oui, c'était aussi beaucoup des enfants avec des fragilités. C'est-à-dire que quand tu travailles avec ces enfants-là, tu vois à la loupe ce que tu as comme fragilité aussi en toi. Mmh. Donc, je pense que ce n'est pas par hasard que j'ai été... c'est le fait d'avoir été confrontée à tout ce côté fragile, sociétalement ou personnellement, qui fait que... qui font que... je retrouve dans les contes exactement cette question. Oui. Tu vois, donc, à la fois mon cheminement, puis tu vois, c'était psychothérapie institutionnelle, donc le lien avec la parole, avec la psychanalyse, et j'ai l'impression qu'il y a pour moi un mariage ouais, ça me fait vibrer, tu vois, c'est vraiment le mot entre... ben, la parole du conte, et puis le cheminement. Le cheminement, notre passage sur terre, là, tu vois, qui est tout petit et qui est aussi magnifique. Et je trouve que le conte répond beaucoup à ce qui me fait vibrer, quoi. Tu vois, il y a... C'est trop fort, le conte.
Tu disais tout à l'heure... On aurait tendance à... Les gens qui ne se sont pas vraiment intéressés au conte ou à l'imaginaire auraient tendance à dire, bon voilà, ça c'est des choses pour... ça va nous faire du bien, non? On va s'échapper, ouais, on va partir ailleurs et ça va être féerique ou je ne sais pas quoi, quelque chose qui est comme une fuite hors de la réalité. Et tu disais, finalement, il se pourrait que ça soit tout le contraire.
Oui, exactement. Ouais, je suis vraiment... C'est comme nos rêves.
Ouais.
Tu ne peux pas te passer de ce langage parce que nous sommes humains. Et dans notre humanité, il n'y a pas que le mental. Et justement, l'inconscient, c'est un vrai voyou, l'inconscient. Il a peur de rien, quoi. Tu vois, il va te mettre en rêve dans des situations, mais c'est dingue, quoi. Tu peux faire les pires bêtises dans les rêves, et aussi, tu montres, ton inconscient te montre ta fragilité. Les contes qui n'ont pas d'âge, parce que souvent on ne connaît pas à quel moment ils ont commencé à circuler, et je suis fascinée de voir comment le conte connaît l'humain avec tous ses défauts et toutes ses qualités, tous ses désirs et toutes ses peurs. Je suis fascinée par l'intelligence des contes.
C'est étonnant parce que souvent les gens ont du conte justement l'idée d'une chose très très normée, très très stéréotypée, oui, très très gentille aussi. Et là, tu es en train de dire qu'il y a il y a une intelligence à l'œuvre là, avec beaucoup 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 de nuances en réalité.
Incroyable. Oui, tu ne peux pas dire un mot sans que tu trouves un conte qui va parler de ça. C'est vrai que je continue de lire des contes et tout ça, et je continue d'être fascinée de l'intelligence des contes, de voir comment ils sont capables de parler de toutes les situations, à commencer par la mort. Oui. Tu vois, oui. Tous les contes sur la mort. Je suis fascinée. C'est que je suis toujours fascinée par les contes. Et ce qui m'épate aussi et qui me surprend et me renforce, c'est que le même conte ne va pas te parler avec la même force au fil du temps. Il y a des comptes que tu vas laisser, tu ne vas plus trop y avoir recours, et d'autres, tu les avais juste survolés il y a 15 ans. Et tout d'un coup, tu les revois et ils te parlent à toi présentement. Ils ont quelque chose à te dire à ce moment-là, quoi.
C'est pour ça que la question de l'actualité ou pas du compte, il y a quelque chose d'absurde. Évidemment qu'ils sont... Dès que ça te parle et dès que ça met en mouvement quelque chose qui est vivant chez toi, c'est contemporain.
Il faut juste que je trouve que le compteur se pose la question, parce que tu as affaire à des gens qui n'ont jamais entendu de compte, tu vois, et donc tu as une sacrée responsabilité, là, ils reviendront ou pas. Et la question... moi, que je me pose en tant que conteuse, c'est comment est-ce que mon public va être concerné ? Le gars qui n'a rien à voir avec les contes, comment est-ce que ce conte va lui parler ? Et c'est là que donc, l'actualisation, moi, je suis un peu... je trouve pas ça... En tout cas, je voudrais surtout rien perdre de la force du conte, mais c'est comment est-ce que l'enfant ou l'adulte va se retrouver dans la première ambiance que tu mets en place devant lui. Est-ce qu'il va être à son aise? Est-ce qu'il va s'y retrouver? Est-ce que ça va lui parler? Et est-ce qu'il va être concerné?
Longtemps, très longtemps, vivait en Bretagne le père du père du père de mon grand-père. Mais dans les autres coins de la terre, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, vivaient aussi les pères des pères. De tous les autres grands-pères. Mais ça, c'était il y a drôlement longtemps, puisque dans ce temps-là, il paraît que les arbres parlaient. Les animaux aussi. Il paraît que les humains les comprenaient. Il paraît que c'est comme ça qu'on a su les histoires. Cric. Quand je dis cric, ça veut dire je suis prête à vous raconter des histoires. Mais vous me dire crac, et ça veut dire que vos oreilles sont prêtes à les accueillir. Cric. Il était une fois un petit village en Bretagne, au bord de la Vilaine. La Vilaine, c'est la rivière qui passe juste en dessous de mon balcon à Redon. C'était un petit village comme tous les villages. Il y avait une église avec un clocher. Il y avait une épicerie. Il y avait un café. Deux cafés, trois cafés, quatre cafés, c'est en Bretagne. Il y avait une école. Il y avait des enfants. Il y avait des parents. Il y avait des grands-parents. C'était un village comme tous les villages. Sauf que dans ce village... il y avait un problème. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous à Colombie, à côté, mais dans ce village-là, les enfants ne voulaient jamais aller se coucher.
C'était Gigi Bigot dans le cadre de la Nuit du Conte. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas pour dire avec la marraine du festival Héroïne de 7 lieux, édition 2024.
Tu as accepté, et je suis honorée que tu aies accepté, d'être marraine du Festival des Héroïnes 2024.
Ouais.
Et on va faire se croiser les paroles, en effet, sur ce quartier, avec des gens qui sont habitués à venir voir des conteurs ou des spectacles, et puis aussi des habitants. Il y a beaucoup de gens qui écouteront des histoires, qui écoutent encore des histoires pour la première fois. Et puis, ce regard particulier sur les personnages féminins, ou le féminin, ou les femmes, dans les contes.
Ben, moi, je te dis vraiment, je suis très, très touchée que tu me demandes, parce que je ne trouve pas que je suis une fille spécialement féministe et tout ça, tu vois. J'aime être une femme, c'est évident. Tu vois. Et puis, ben, si je n'aimais pas, ce serait peut-être pareil, puisqu'aujourd'hui, il n'y a que de très grandes ouvertures par rapport au genre. Mais ce que tu m'as demandé, ça m'a beaucoup touchée, parce que nous sommes voisines, mais on s'est peut-être vues trois fois dans notre vie.
C'est ça.
Tu vois ? Et surtout, ce que tu m'as raconté sur tes actions et celles des autres femmes dans le quartier, moi, ça me parle beaucoup. Tu vois ? Et c'est vraiment ça que je voudrais creuser avec toi. Peut-être un petit peu comme je fais à TD, peut-être qu'on peut le côté lien social me parle beaucoup, tu vois, beaucoup. Donc je suis très touchée.
Super, on va inventer des trucs.
Ah ouais, j'ai vraiment envie, ouais. Mais je te remercie très fort, Anne-Gaëlle.
Ça me réjouit, parce que c'est une chose à inventer. Donc,
C'est pas pour dire, et c'est comme ça que se termine ce grand entretien avec Gigi Bigot, son énergie communicative et sa passion des histoires. Si tout cela vous a plu, vous pouvez réécouter cette émission et toutes ses petites sœurs sur le site www.c'estpaspourdire.fr et nous envoyer des commentaires et des suggestions sur la page Facebook de l'émission. Amis du conte et des rêves, salut. I still have a dream.